Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui creuse le Finistère avec ses micros et qui plonge dans notre département. Le mardi, souvent dans l'EM, c'est sciences, les sciences qui sont aussi humaines. Et il y a à l'Université de Bretagne Occidentale une unité de recherche, le CRBC, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Et c'est une de ses membres que nous recevons aujourd'hui, Véronique Léonard-Roch. Elle travaille ou a travaillé sur des sujets aussi passionnants que la réception des mythes, particulièrement d'origine biblique et gréco-romaine, sur l'écriture de l'histoire et des violences extrêmes, avec ses questions mémorielles et testimoniales autour de la Révolution française en Europe, des guerres mondiales. Véronique Léonard-Roch a aussi travaillé les études de genre. Le genre et canon, le genre et le voyage, les figures mythiques féminines, la littérature et la création au féminin. Et c'est plutôt ce dernier volet qui nous intéresse aujourd'hui, en particulier les écrivaines voyageuses et leurs récits de traversées maritimes. On a donc rencontré et interviewé Véronique Léonard-Roch cet été à ce sujet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeure de littérature comparée. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, alors la littérature comparée, c'est une discipline qui confronte des œuvres qui sont écrites par des auteurs et des autrices qui appartiennent à des aires culturelles et linguistiques différentes. Donc c'est l'idée de sortir des cloisonnements des littératures nationales pour étudier la circulation des idées, des œuvres, les transferts à une époque donnée ou bien autour d'un, je sais pas, d'un mythe, d'un thème en diachronie, mais avec l'idée qu'on s'intéresse justement à des points de vue qui relèvent de domaines culturels et linguistiques différents.
Et vous diriez quand même que votre travail se rapproche de celui d'une historienne ou pas ?
Alors oui, moi, effectivement, je m'intéresse beaucoup à l'histoire culturelle. Je me fonde aussi sur les travaux des spécialistes d'histoire culturelle. On peut avoir les mêmes sources, notamment pour les écrits non fictionnels, correspondances, journaux intimes, etc. Après, l'approche est quand même partiellement différente. C'est-à-dire qu'évidemment, on prend en compte tout ce qui est contexte et sensibilité, imaginaire. Mais justement, à cause de l'imaginaire, on s'intéresse aussi à ce qui peut être, ligne de fiction. Et on s'intéresse aussi à tout ce qui relève quand même des principes d'écriture, des grands mécanismes de construction d'une œuvre, de la forme. On est attentif aussi au style, au travail sur la langue, mais on n'est pas des stylisticiens, on n'est pas...
Oui, parce qu'en ce qui vous concerne, vous travaillez que sur du français ou pas, justement, pas uniquement, c'est ça ?
Non. Donc, je croise des œuvres, évidemment, des œuvres françaises, écrites en français, mais aussi des œuvres de littérature allemande ou britannique ou américaine, anglo-saxonne, voilà.
Donc là, le séminaire que vous avez organisé, il a pour titre, moi je pensais à l'histoire parce qu'il a quand même pour titre « Mémoire portuaire et maritime au féminin ». Pourquoi est-ce que vous avez voulu organiser un séminaire sur ce sujet-là ?
Alors en fait, c'est le fruit de différents centres d'intérêt et aussi de mon appartenance à cette unité de recherche qui est un laboratoire pluridisciplinaire en fait. On a des spécialistes de différentes disciplines, des historiens bien sûr, mais aussi des littéraires, des géographes, des anthropologues. Et donc il y avait cette envie de réfléchir au féminin, puisque en fait les études de genre c'est aussi une approche transversale des sciences humaines et sociales qui rapproche un certain nombre d'entre nous, et bien sûr en lien aussi avec mes propres recherches qui en ce moment portent principalement sur les récits de voyage au féminin.
Et bien sûr, on va y revenir, parce que vous avez travaillé donc sur ces voyageuses. Moi, j'ignorais... Alors, est-ce qu'on parle d'abord de celles qui ne voyageaient pas ? Parce qu'il y a aussi des femmes qui étaient liées au monde de la mer, dont on a, pour ainsi dire, pratiquement pas entendu parler. Enfin, chez nous, on a entendu parler des sardinières de Douarnenez, mais là, c'est les travailleuses de la mer encore d'un autre acabit. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, bien sûr. Alors, elles ont été longtemps invisibilisées ou effacées, hein, en tout cas des mémoires collectives sans doute hors des littoraux. Là, par exemple, la commémoration récente du centenaire de la grève victorieuse des sardinières à Douarnenez a permis de rendre hommage et de remettre en lumière leurs conditions de vie, de travail, leur lutte, et de faire en sorte qu'un grand public s'intéresse à ce sujet. Mais ce que j'ai pu constater, sans être spécialiste de la question, puisqu'on sort un peu de la littérature, et que en tout cas, je n'ai pas trouvé, malheureusement, d'écrivaine ou même d'écrivain qui traitait en littérature, véritablement des sardinières ou des ouvrières de la mer. Elles sont peut-être plus représentées en peinture, en effet, à la fin du 19e siècle, et pas par des femmes, pas par des peintres femmes. Peut-être qu'elles ne rentraient pas dans ce type de lieu pour peindre sur le motif. Le fait qu'elle soit invisible, qu'elle soit en intérieur, même si, dans une sphère fermée, ça renvoie quand même à cette séparation des espaces genrés, l'espace public qui est masculin, traditionnellement, et puis l'espace féminin qui est plus enfermé, en effet. Je voulais faire un parallèle avec un autre sujet de recherche auquel je participe davantage à la marge, qui est le projet frigorifique qui est porté par l'UBO et par l'UBS aussi, autour de la mémoire des ouvrières des usines à poissons de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc qui travaillaient la morue à partir du moment où un frigorifique a été construit à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'était un des premiers frigorifiques d'Atlantique Nord.
Donc à quelle époque ?
Alors c'était 1920, si je ne me trompe pas. Mmh. Et il a fallu du temps pour qu'il entre véritablement en fonction, mais une fois en fonction, les femmes qui travaillaient la morue dans des conditions difficiles.
C'était forcément un travail de femme, apparemment. Travailler la transformation du poisson.
Oui, absolument. Ouais. Ce type de poisson-là, en tout cas.
Donc là, c'était les habitantes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui.
Il y a des écrits, puisque vous êtes impliquée, vous, en tant que professeure de littérature comparée.
Alors, c'est difficile de trouver des écrits qui mentionnent le travail de ces femmes. On a des archives photographiques. On a aussi, évidemment, des mentions du frigorifique. Mais j'ai consulté de la fiction, essentiellement, qu'elle ait été écrite par des habitantes de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc endogènes, ou bien des écrivains qui ont écrit sur Saint-Pierre-et-Miquelon sans en être originaire. Et c'est quand même pas un aspect qu'on trouve si fréquemment. Effectivement, si je reste sur Saint-Pierre-et-Miquelon, les femmes dont il est question, les habitantes de l'archipel dont il est question, c'est souvent des prostituées. Voilà, parce qu'on sait bien que c'était une étape importante dans la pêche sur les grands bancs, que les hommes, les pêcheurs débarquaient après un certain nombre de mois passés en mer dans des conditions très difficiles. Et c'était une halte, une étape avant de repartir. Enfin, il est beaucoup question dans les textes, des femmes des cafés, voire des prostituées. Mais très peu, même des femmes des pêcheurs qui, pourtant, devaient très certainement participer à l'économie de la pêche, rien qu'en participant à l'entretien du matériel, ravauder...
les filets, bien sûr.
Ouais.
Mais celles qui travaillaient dans les frigorifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc, c'était des femmes de pêcheurs, d'ailleurs, on ne sait pas.
Certainement, en partie. Mais alors, justement, donc, j'ai des collègues économistes et historiens qui sont en train d'épouiller les archives sur place.
C'est pour ça que vous y allez, en fait.
Oui, voilà. Et les archives de cette usine vont nous permettre d'en savoir plus sur effectivement l'origine sociale, l'état civil de ces femmes. Et puis j'ai des collègues anthropologues qui font des interviews, des entretiens là avec les dernières ouvrières de cette usine à poissons.
Ah oui, qui a fermé des... quoi dans les années 70, 60
Après, plutôt 90 en fait. Hein. Justement, ils cherchent à les rencontrer, ce sont souvent des dames âgées maintenant, hein, on le comprend bien. Et c'est important de garder leur mémoire un petit peu comme Marie-Elia l'a fait pour les sardinières de Douarnenez.
Mm-hmm. Voilà. Et vous, donc... Enfin, il n'y aura pas vraiment de littérature, c'est ça ? Donc, quel sera votre travail exactement ?
Alors, moi, je m'intéresse à tout ce qui est, littérature fictionnelle ou non fictionnelle et qui rend compte de l'activité féminine à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la fin du 19e siècle, pour essayer de voir, par les textes, quelle mémoire a été transmise et qu'elle pense aussi occultée ou invisibilisée. Donc c'est à ces deux types de sources que je m'intéresse, et qu'il s'agisse d'écrivains ou d'écrivaines. Hein, là, je m'intéresse.
Mmh, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, on ne peut pas faire la difficile.
Non, exactement.
Donc les femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon restaient sur leur île, et il y a des femmes qui, en tout cas à partir du XVIIIe siècle, ont voyagé en mer et en plus l'ont raconté. Donc ça, alors dites-nous déjà ces figures-là, qui sont-elles, ces femmes ?
Alors en fait, le récit de voyage au féminin naît assez tardivement. Les pionnières du genre remontent vraiment au début du XVIIIe siècle. Donc c'est tardif par rapport à une tradition du récit de voyage scientifique, ou qui était bien en place depuis le XVIe siècle, depuis les grandes découvertes en fait, et la multiplication des voyages, mais qui étaient masculines. Et en fait, les premières à laisser des témoignages écrits et à les penser ou à les concevoir dans la tradition du genre viatique, mais en les renouvelant cette tradition, en se l'appropriant, ce sont des Britanniques. Alors d'abord des Britanniques aisés, hein, et puis ensuite des femmes de la middle class, comme on dit, plutôt vers la fin du XVIIIe siècle. Mais la première, c'est une grande aristocrate, Lady Mary Wortley Montagu, qui va accompagner son mari, qui était ambassadeur britannique à Istanbul, en fait. Elle l'accompagne et elle va, on est en 1716, il voyage, ouais. Il reste absent de Londres et d'Angleterre à peu près 3 ans. En fait, elle décrit son voyage jusqu'en Turquie, jusque dans
Ils sont descendus par voie maritime depuis Londres, alors.
Alors, pas
depuis Londres,
en partie. Mais en tout cas, pour traverser la Manche, oui. Ah oui. Il n'y avait pas d'autre possibilité.
Oui, c'est sûr.
Mais ensuite, ils ont traversé les terres. Hein. Pour ce qui est de la relation à la mer, en fait, elle est quasiment... elle est assez négative au début du XVIIIe siècle. Hein, et il faut attendre vraiment le cours du XVIIIe siècle en Angleterre et vraiment le début du XIXe siècle en France, hein, puisqu'on a des décalages chronologiques, pour qu'il y ait une perception positive de la mer, ou en tout cas un goût de la mer et du monde maritime qui se mette en place.
Parce qu'en général, par exemple, pas seulement de la part des femmes, enfin, en général.
Non, c'est en général. Ouais. Hein, c'est en général, mais après, les femmes peuvent projeter aussi en lien avec la traversée maritime et puis plus généralement le voyage. Une recherche d'émancipation, tout simplement, ou de construction identitaire, enfin de liberté, c'est l'accès à l'espace dont on parlait tout à l'heure, la sphère publique, c'est l'accès au monde, hein, c'est la sortie de la sphère domestique. Et donc pour en revenir simplement à la perception pendant la première moitié du XVIIIe siècle, la perception qu'il y a de la mer, par exemple au cours de la traversée, en fait on ne reste pas du tout sur le pont, hein. On est à l'intérieur de la cabine, en fait ce qui compte c'est d'arriver sain et sauf à bon port, et la mer est considérée comme un espace à risque, comme un espace hostile, associé au mal de mer aussi, le terrible mal de mer, etc. Et donc, en fait, ce qu'on trouve dans les récits, c'est « je suis bien arrivée ». Et si jamais la traversée n'a pas été, n'a pas été de tout repos, c'est indiqué, mais on n'a pas de description de l'extérieur. Et ce qui est extrêmement intéressant, par exemple, chez cette lady Mary Montagu, c'est qu'elle va décrire, lors d'une traversée assez mouvementée, elle va décrire le comportement de ses compagnons de voyage.
Ah oui.
C'est-à-dire quelles sont les réactions face à la terreur, face à la peur de mourir. Enfin, donc, c'est l'intériorité qui est examinée.
Elle décrit sa cabine, mais...
Voilà. Mais on ne saura quasiment rien. On n'aura
de l'extérieur.
Pas de description de la tempête, des éléments. Il n'y a pas de goût pour la description de ces phénomènes, en fait. Mmh.
Et elle ne traverse pas la Méditerranée, après.
Alors, non, c'est par voie de terre. Et justement, ça me permet de parler d'une voyageuse française, alors qui est assez peu connue en France, mais qui est quand même une des premières. C'était une femme de lettres importante du XVIIIe siècle, Anne-Marie du Bocage.
Qui a pourtant un nom bien terrien.
Oui, c'est vrai, mais qui est connue des seuls spécialistes, malheureusement. Et elle, par exemple, elle voyage en Angleterre, en Hollande et en Italie, autour des années 1750. Mais par exemple, elle écrit que n'aille pas par voie de mer celui qui peut aller par voie de terre. En fait.
Vaut mieux pas, quoi.
Non,
vaut mieux pas prendre la mer.
Il faut éviter. C'est-à-dire que si on peut contourner, quitte à faire des kilomètres en plus, eh bien, c'est préférable parce que ça sera moins dangereux. Donc, ça vous dit quand même l'état d'esprit et la relation à cet élément qui est une relation de méfiance,
en effet.
De forte méfiance.
Et alors, quelles sont les premières femmes qui exaltent la mer dans leur récit ?
Alors... des Anglaises encore, sous l'effet des changements de paradigme, de l'apparition de la catégorie du sublime.
C'est le romantisme aussi, la sensibilité à la nature.
Exactement.
C'est ça.
Et effectivement, à la nature grandiose, qui vous dépasse, qui vous fascine, que vous admirez, mais qui vous terrorise aussi. Alors d'abord, c'est la montagne, c'est les hauts sommets, c'est la Suisse. Et puis, ces représentations vont être projetées aussi sur l'océan. Enfin, l'océan, la mer, en général. Donc, une des premières à écrire un texte où, justement, il y a une appréciation du voyage sur le pont.
Ça y est, on sort de la cabine, enfin.
Et qui se campe même dans une posture volontairement intrépide. Mm-hmm. C'est Mary Wollstonecraft, la Britannique, qui est d'ailleurs la mère de Mary Shelley, et qui a écrit une défense des droits des femmes pendant la Révolution française. Donc elle fait un voyage en Scandinavie, donc elle change aussi... il y avait des raisons biographiques, on remarque aussi un changement des itinéraires. Parce que les premiers itinéraires pratiqués par les femmes, c'était ceux du Grand Tour, de ce qu'on appelait le Grand Tour, qui est une pratique culturelle qui avait
lieu... De tourisme avant l'heure, quoi, c'est ça.
Dans les milieux aisés d'abord, très aisés... des hautes sphères sociales britanniques, et qui était une forme de voyage d'éducation, qui venait parfaire votre éducation par le voyage. Et c'était réservé d'abord aux fils de très très bonnes familles, mais il y a eu une forme de démocratisation du Grand Tour au XVIIIe siècle, et en s'ouvrant à des milieux sociaux un peu moins élevés, eh bien le Grand Tour s'est ouvert aux femmes aussi. Et c'est pourquoi on a tellement, et c'est d'abord un phénomène britannique, alors après il va être copié, l'anglomanie européenne jouant. Il va être copié par d'autres pays, la France en particulier, mais en tout cas pour les femmes britanniques. Donc du coup, les voyageuses allaient généralement en Italie, et le terme de ce grand tour, c'était Naples. Donc c'était là qu'on voyait la mer, c'était là qu'éventuellement on faisait quelques excursions aux îles, mais c'était dans une optique très normée, comme la pratique du Grand Tour en général, où tout le monde s'arrêtait aux mêmes étapes, descendait dans les mêmes hôtels, les mêmes auberges, fréquentait les mêmes salons.
Les incontournables, comme on dit aujourd'hui.
C'était très codifié, en fait.
D'accord.
Ça se terminait à Rome et à Naples par un voyage sur les pas des antiques, en fait. Enfin, ou des anciens, plutôt. Et donc, on voyageait avec Virgile en tête, ou des lieux communs issus de l'Odyssée ou des Latins. Et,
donc, Méditerranée, là, pour le coup, c'est la mer Méditerranée.
Voilà.
Elles ne faisaient pas de récits sur leur traversée de la Manche, ces Britanniques.
La traversée de la Manche, c'était juste une étape à laquelle on ne pouvait pas échapper.
Ça allait assez vite aussi, peut-être, en un sens.
Parfois,
non,
la mer était formée, houleuse, il pouvait y avoir du retard.
J'ai pas idée, en fait, combien de temps on mettait cette époque-là pour traverser la Manche.
Je ne voudrais pas me tromper, mais parfois, ça peut prendre 2-3 jours quand la mer est dangereuse et quand il y a des tempêtes. Ou alors, il faut attendre dans son auberge et on prend son mal en patience. Mais on voit, par exemple, une Française, Vigée Lebrun, la peintre, la célèbre portraitiste de Marie-Antoinette, qui, elle, est partie en émigration dès les débuts de la Révolution, en juillet 1789. Elle va faire un grand exil. Enfin, elle part en émigration et pendant 10 ans, elle va cheminer dans toute l'Europe et se rendre de cour en cour pour gagner sa vie et faire des portraits des nobles, des aristocrates, des rois et des reines. Elle va jusqu'en Russie, par exemple. Mais elle va aussi en Angleterre. Là, elle a aussi, pour des raisons financières, elle a un public qui lui permet de bien gagner sa vie. Et à son retour, elle est bloquée dans une auberge. Elle veut faire la traversée de la Manche, mais elle ne peut pas. Et pourtant, elle est peintre. Mais il n'y a aucune sensibilité à ce paysage d'éléments déchaînés. Dans ses mémoires, elle ne décrit pas, elle dit juste qu'elle est obligée d'attendre dans cette auberge et que c'est affreux et que les conditions de l'auberge sont détestables.
C'est parce que c'était une peintre de portraits, peut-être. C'est peut-être pour ça.
Oui, mais il y avait très peu de femmes peintres de paysages parce qu'elles ne pouvaient pas être formées sur la question à la peinture d'histoire. Donc, il y a aussi des conditions socioculturelles et institutionnelles qui jouent.
Alors, est-ce qu'il y a une femme, un récit que vous voudriez mettre en avant ? Alors là, pour le coup, peut-être très très positive, avec de l'aventure, je ne sais pas.
Bon, il y en aurait plusieurs, parce que les récits de voyage des voyageuses que j'étudie sont absolument passionnants. Et c'est vrai que ils ont perduré, c'est aussi qu'ils ont... on les redécouvre malgré tout, mais ils ont pu avoir du succès du vivant des autrices. Il y avait une véritable raison, c'est-à-dire qu'il y a une qualité de l'écriture, il y a une manière de raconter, de construire le récit qui tient son public en haleine, un style alerte parfois, etc. Alors donc, j'aurais vraiment le choix entre différentes autrices, mais peut-être que je parlerai de Léonie Daunet et de son voyage fort, fort exceptionnel pour une femme de son temps et pour une personne de son temps, au Spitzberg. Elle va être la première femme en France, en tout cas, à avoir a priori franchi le cercle polaire et le cap Nord et à avoir navigué jusqu'au Spitzberg. En tout cas, elle est vraiment la première à le raconter, en tout cas, dans l'état de nos connaissances. En fait, on est en 1839, donc c'est dans le cadre d'une expédition scientifique qui est commanditée par Louis-Philippe, et c'est l'expédition scientifique du Nord. Bon, alors le Nord, vous voyez, c'est un peu vague.
Oui, c'est un grand flou.
Les frontières sont imprécises, mais c'était une expédition qui avait à son bord un certain nombre de savants, aussi des peintres, des dessinateurs pour étudier la faune, la flore.
Oui, c'était généraliste comme expédition.
Oui, tout à fait, faire des études, des mesures physiques, des relevés... Et donc, elle réussit à s'imposer à bord, en tout cas sur une partie du trajet, la plus intéressante à ses yeux, c'est-à-dire la partie finale, depuis Hammerfest, qui est donc le dernier village ou la dernière ville de Norvège, si je ne me trompe pas, depuis Hammerfest jusqu'à l'archipel du Spitzberg. Alors, comment cela s'est-il passé? Donc, il faut d'abord savoir que les femmes étaient interdites à bord des vaisseaux de la marine d'État, la marine royale d'abord et la marine d'État ensuite. Et donc, c'était une règle très stricte hein, qui faisait que ce type de bateau était un espace genré, non mixte. En fait, elle était fiancée avec un des peintres de l'expédition.
C'est souvent ça, ouais, le passe-droit. Voilà. Être la fiancée d'eux, c'est ou être déguisée.
Voilà. Avoir un amant à bord, ouais, ou un mari, ou un fiancé. Et donc, elle s'est aussi déguisée hein, pour monter à bord. Elle s'est habillée en homme, elle s'est fait couper les cheveux. Bon, de toute manière, c'était sur la partie la plus extrême, donc... Bon, les vêtements, je pense qu'il fallait
tout le monde était habillé avec un sac à patates.
C'est un peu ça. Et surtout, tout le monde cherchait avec des pelisses à se prémunir du froid. Et bon, c'est dans ces circonstances-là qu'elle a pris part à la dernière partie de l'expédition. Et elle est quand même restée 6 semaines parce que le bateau, c'était une corvette qui avait pour nom la Recherche, a stationné 6 semaines en Belgique. Madeleine, le temps que ces différentes mesures, recherches, etc. soient faites. Alors, son fiancé Biard a, lui, représenté, il a peint, en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a ces peintures qui nous montrent des images et puis aussi des images des populations lapones. Alors, elle va vivre une expérience très intense, en fait.
Elle n'avait pas de compétences scientifiques. Elle s'était donnée pour mission de documenter ou c'était juste par curiosité?
Je pense que c'était une appétence personnelle, une curiosité, une envie de découverte. Et peu de temps auparavant... 10 ans ou 15 ans auparavant, une femme avait fait un tour du monde et l'avait documenté. C'était Rose de Fraissinet. Elle est montée à bord de l'Uranie et l'Uranie a été commandée par son mari, Louis de Fraissinet, et devait faire un tour du monde pour compléter des relevés topographiques et des mesures scientifiques ayant trait à l'Australie. C'était un jeune couple, ils ne voulaient pas se séparer. Bon, alors ils avaient mis quelques personnes dans la confidence et elle est montée à bord, travestie en homme. Le commandant avait fait aménager sa cabine de manière à ce que ce soit un peu plus confortable, mais elle a été la seule femme, pendant 2 ans et demi ou 3 ans qui a duré l'expédition à bord avec 150 hommes. Et donc, ça avait fait grand bruit quand même, cette histoire. Et Léonie Donnet enviait cette Rose de Fraissinet. Et en tout cas, c'est ainsi qu'elle présente son désir de voyage dans le récit qu'elle a fait.
Et qui est un récit plutôt positif. Enfin, elle a aimé ça.
Ah oui, ouais. Elle a beaucoup aimé. D'ailleurs, elle décrit vraiment chaque étape de son voyage, aller et retour. Donc, c'est très documenté. C'est très intéressant pour, effectivement, ce qu'elle livre comme information hein, sur les pays qu'elle traverse, les populations qu'elle rencontre. Mais la partie la plus poignante, c'est bien sûr cette partie qui a trait au Spitzberg. Et donc... la découverte de ce monde glacé, de ce grand nord, la fascination qu'elle éprouve, mais aussi une forme de terreur, parce que c'est le point de non-retour du voyage. Et là, elle comprend vraiment qu'elle vit une expérience d'ordre... existentiel, vital, et que le bateau peut être pris dans les glaces. Et que s'il est pris dans les glaces, cela signifiera la mort certaine. Et je pense qu'en plus, la mémoire du naufrage de la Méduse était encore assez fraîche.
Ah oui, c'était l'époque.
Voilà, c'était quand même peu de temps après. Et on sait bien qu'il y a eu des extrémités commises par nécessité de survie, en fait, dans des conditions extrêmes. Donc, du coup, c'est une écriture de l'excès qui est magnifique, de la prise de conscience, finalement, de ce qui compte vraiment pour elle dans sa vie, comme s'il avait fallu qu'elle arrive à ce lieu si lointain, à ce lieu des extrêmes, pour avoir une forme de révélation aussi concernant son identité profonde. Et Simplement, je voulais peut-être juste dire quelques mots de la publication de ce récit, parce qu'en fait, elle ne l'a pas écrit immédiatement à son retour. Elle avait pris des notes, elle avait écrit à son frère, mais elle le publiera quelques années après. Alors, pourquoi ? Eh bien, pour des raisons financières. Alors, d'abord, le contexte était favorable à la réception des récits de voyage. On avait un public très friand de récits de voyage. Donc, c'était un type de texte qui se vendait assez bien, pour peu qu'on arrive à l'écrire de belle manière. Ce qui l'a obligé à l'écrire, c'était des nécessités financières, comme je le disais, parce que elle a été la maîtresse de Victor Hugo, le mari de peintre. Une de plus, voilà. Le peintre les a fait suivre et les a pris en flagrant délit d'adultère. Ça a fait un scandale, mais le code civil ne punissait pas les femmes et les hommes de la même manière pour le délit d'adultère. Et donc, Victor Hugo d'abord était un homme, ensuite il était pair de France, donc évidemment elle a fait de la prison dans une prison de prostituée. Et quand elle est sortie de prison, elle a eu une amende assez forte aussi à payer. Elle avait vraiment besoin d'argent. Et donc, elle a écrit ce récit de voyage. Mais elle a toute une œuvre qu'on méconnaît, en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Véronique Léonard-Roch, de nous avoir emmenés comme ça dans le sillage de ces femmes qui ont voyagé en mer.
Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir.
Au revoir. Et n'hésitez pas à réécouter cet entretien sur le site internet de Transistor. Merci de votre écoute.